Histoire et gastronomie, la chronique de Jean Vito sur Canal Académie.
Nostradamus, des centuries prophétiques au traité des confitures. Nostradamus, de son vrai nom Michel de Notre-Dame, est de nos jours surtout connu pour ses célèbres prophéties déclinées en quatrains ou centuries que l'on réédite régulièrement et que l'on réinterprète en les mettant au goût du jour. La plus célèbre de ces centuries est sans conteste celle qui a prédit la mort du roi Henri II, blessé à l'œil et au cerveau par la lance de Montgomery en 1559, lors d'une joute au cours d'un tournoi à Paris, et qui en mourra malgré les soins d'Ambroise Paré. Ce médecin, qui avait latinisé son nom dans le goût du temps, comme le célèbre médecin allemand Paracels, mélangeait les genres de l'astrologie, alors encore considérée comme une science, à la médecine, à la gastronomie, puisqu'on lui doit, en 1555, un des premiers livres imprimés en français sur les confitures. Il peut paraître étrange qu'il ait fallu attendre le XVIe siècle pour que l'on écrive sur les confitures, et que le sucre était un produit nouveau et cher qui ne commença à se répandre vraiment qu'à la Renaissance. Le sucre ancien était issu de la canne à sucre, originaire de la Nouvelle-Guinée. Il se répandit avant notre ère en Inde, où il fut découvert par les soldats d'Alexandre Grand dans la vallée de l'Indus en 326 avant notre ère, qui parlèrent du roseau qui donne le miel sans le recours des abeilles. Pline nous dit que Néron goûta un sel indien semblable au sel ordinaire comme forme et couleur, à la saveur du miel. Il fut utilisé par le médecin Galien comme un médicament, ce qu'il resta pendant tout le Moyen-Âge. Raffiné par les Sassanides, puis implanté par les Arabes en Égypte, il fut ramené en Europe par les croisés au XIIe siècle, qui en introduisirent la culture à Chypre en 1291, après la chute de Saint-Jean d'Acre. Les Vénitiens s'emparèrent du commerce du sucre, comme de tout ce qui était lucratif, et plantèrent la canne à sucre en Crète, d'où le nom de sucre candi, du nom ancien de l'île Candie, et en Sicile. Mais le principal producteur du bassin méditerranéen demeurait l'Égypte. Malgré tout, le sucre demeurait un produit de luxe fort cher, que l'on enfermait avec les épices dans les armoires fortes des châteaux. Les Portugais au XVe siècle plantèrent à Madère et aux Canaries, et dès le début du XVIe siècle, des cultures industrielles de canne à sucre furent plantées en Amérique et aux Antilles, ce qui assura plus tard les beaux jours du commerce triangulaire. Avant cette époque, le miel remplaçait le sucre, et l'on ose imaginer ce qu'étaient les gâteaux de ces époques reculées, où il n'y avait ni sucre ni beurre, qui ne se répandra aussi seulement qu'à la Renaissance, mais seulement de la farine, des œufs et du fromage blanc. De même, les confiseries étaient rares et consistaient surtout en des fruits conservés dans le miel ou le vin. Les compotes macérées au miel, parfumées et bouillies, étaient un grand classique de la cuisine médiévale. Cependant, les dragées avaient été inventées à Verdun vers 1200. Au XVIe siècle, le sucre devint donc un produit plus accessible, moins rare et moins cher, et l'ère des douceurs et des pâtisseries pouvait commencer. Petit traité de Nostradamus s'intitule « Excellent et moult utile opuscule à tous nécessaires qui désirent avoir connaissance de plusieurs exquises recettes ». Son auteur se présente comme docteur en médecine de la ville de Salon en Croix en Provence, l'actuel Salon de Provence, ce qui n'est pas surprenant car Michel de Notre-Dame détaille les propriétés thérapeutiques, réelles ou supposées, de ses recettes. Il reste en cela un disciple de Galien et des médecins anciens, qui considérait le sucre comme un médicament. Il utilise largement dans ses recommandations médicales les préparations à base de gingembre, de courge, nouveauté du Nouveau Monde, et de racines de buglos. Et il les utilisait à la fois en les faisant ingérer et comme topiques locaux sur la peau. Au début du XVIe siècle, Olivier de Serres disait que les confitures sustentent beaucoup les bien portants, mais leur précieux goût et faculté réconfortent et réjouissent les malades. Il est amusant de citer les indications thérapeutiques de l'écorce de buglos confite, qui est une confiture cordiale qui préserve le personnage de devenir hérétique ou hydropique et tient le personnage joyeux et allègre, chasse toute mélancolie, retarde la vieillesse, fait bonne couleur au visage, entretient l'homme en santé, préserve l'homme colérique. Vaste programme. L'idée que le sucre protégeait des hérésies provient sans doute des préceptes des imams musulmans qui soutenaient que qui aimait le sucre et les douceurs aimait Dieu. Mais Nostradamus n'a pas oublié la gastronomie. Il est à la fois un adepte des méthodes anciennes et des produits nouveaux comme le sucre. Il nous propose des recettes de confiture au sucre, au miel et au vin cuit. Tout fut en fait inventé à Venise, centre européen du commerce du sucre. On y faisait déjà des gelées, des confitures, et Nostradamus nous parle en particulier d'une gelée de guigne qui est aussi claire et vermeille comme un fin rubis et de bonté, saveur et vertu excellente que les guignes se conserveront longuement en perfection sans y rien ajouter que le fruit. Ces recettes nous paraissent modernes, car il limitait le sucre à 2 parts pour 7 de fruits, ce qui est redevenu à la mode depuis les préceptes contemporains de diététique. Cependant, de telles proportions correspondaient sans doute plus à des préceptes d'économie, car le sucre était cher, que de diététique. À partir de cette époque, les inventions de douceur se multiplièrent. Les fruits confits, d'origine italienne, trouvèrent leur cité d'adoption en France à Apt, en raison de l'abondance des vergers provençaux. De même, le nougat se fixa à Montélimar au XVIIe siècle, mais il avait été inventé en Andalousie au XIIe siècle par les confiseurs mozarabes. La praline fut inventée par Lassagne, qui était le chef d'office du duc de Choiseul, comte du Plessis-Pralin, qui s'installa à Montargis en 1630 et fit fortune en vendant des pralines baptisées en l'honneur de son ancien maître dans sa pâtisserie du roi. Le cotignac à base de coing, de vin et de miel et d'épices fut créé à la même époque à Brignoles avant de devenir de nos jours des pâtes de coing présentées dans le Gâtinais et l'Orléanais dans des boîtes à l'effigie de Jeanne d'Arc. Les pistoles de Brignoles sont par contre de petits pruneaux apparus au XVIe siècle comme les pruneaux de Touraine puis les pruneaux d'Agen créés dans l'abbaye de Clairac. Quoi qu'il en soit, Michel de Notre-Dame gagna les faveurs de Catherine de Médicis qui lui accorda ses faveurs et l'invita à sa cour. Catherine de Médicis était une femme à la personnalité complexe qui accordait un grand intérêt à l'astrologie, comme en témoigne encore la colonne de la Bourse du Commerce à Paris, seul témoin préservé de l'ancien hôtel de la Reine. Mais c'était aussi une grande mangeuse qui faillit mourir en 1577 lors de la nuit de Chenonceau, ayant abusé de béatilles, riz d'agneau, et de cul d'artichaut, comme le rapporte Pierre de l'Étoile. Pensons que Catherine de Médicis fut autant séduite par les confitures de Michel de Notre-Dame que par ses qualités médicales ou surtout les prophéties de Nostradamus.